Bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Mendès France. Donc ce soir, je vous remercie de vous être déplacés jusqu'à ici pour cette conférence sur Alzheimer. Et cette conférence s'inscrit donc dans le cadre de l'exposition qui est actuellement présentée sur le cerveau à tous les âges et qui donc est présentée jusqu'au 5 janvier. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore visité, je vous invite à venir les derniers jours la voir. Et suite à cette exposition, nous allons faire un deuxième volet ici à l'espace Mendès France sur le thème « Le cerveau et les addictions ». Voilà, je laisse tout de suite la parole à Guylaine Page, donc, qui va présenter le contenu de cette conférence.
Merci. Donc, bonsoir à tous. Merci au comité d'organisation de l'espace Pierre Mendès France et surtout à Madame Christine Guiton de nous accueillir ce soir pour parler de la maladie d'Alzheimer. Donc, nous avons, l'équipe ici présente, un petit peu subdivisé notre intervention en quatre mini-conférences. Donc la première que je vais animer qui portera sur des souris au service des hommes. Je laisserai ensuite la parole au professeur Marc Pacalin, qui est gériatre et qui va donc vous parler des progrès en imagerie et également en thérapeutique dans la maladie d'Alzheimer. Puis je laisserai la parole ensuite au directeur de l'association France Alzheimer Vienne, monsieur Jacques Henry, qui va donc aborder la prise en charge du patient et des aidants au sein de cette association. Et la dernière intervention sera assurée par le professeur Roger Gilles, qui va donc faire une sorte de conclusion sur Alzheimer, que peut-on dire fin 2013. Donc je vais commencer par me présenter. Il faut dire que professeur Marc Pacalin et moi donc, animons deux groupes de recherche, un qui se situe au niveau du pôle biologie santé et qui est appelé CIMOTEMA, CIMOTEMA pour cible moléculaire et thérapeutique de la maladie d'Alzheimer, et le centre mémoire de ressources et de recherche qui est au niveau du CHU. Donc la conférence que je vais aborder porte sur des souris au service de l'homme, mais avant de rentrer dans le sujet, je vais donner des informations très générales sur la maladie d'Alzheimer. Donc vous savez que c'est une maladie neurodégénérative et on pourrait dire qu'il s'agit de la maladie des 4 A. 4 A pourquoi ? Puisque la maladie d'Alzheimer se caractérise par une perte de mémoire pour amnésie, donc une perte du langage, aphasie, une perte des coordinations des mouvements, apraxie, et la perte de la reconnaissance, agnosie. Donc tous ces troubles en fait vont apparaître progressivement au fur et à mesure que la maladie évolue. Alors ça c'est la définition principale de la maladie d'Alzheimer et ses principaux signes. Et si on rentre dans la physiopathologie de la maladie, on connaît deux lésions histopathologiques majeures de la maladie. Donc la maladie dans le cerveau se caractérise par un dépôt de plaques amyloïdes. Excusez-moi, je vais un peu trop vite avec le pointeur là. Voilà, un dépôt de plaques amyloïdes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Nous avons tous, au niveau de nos cellules, un précurseur d'un peptide qui s'appelle le précurseur du peptide amyloïde. Et ce précurseur, eh bien, chez les patients Alzheimer, il va être coupé par des enzymes, ce sont des véritables petits ciseaux, si vous voulez, au niveau de la cellule, et qui vont donc, à des endroits bien précis, couper ce précurseur et libérer donc un fragment. Ce fragment est insoluble, et donc il se dépose pour former donc des plaques amyloïdes. Alors, c'est dans plus de 95% des cas, on ne connaît pas la cause. On ne connaît pas la cause de cette hyperproduction de ce peptide toxique. Seulement, dans moins de 5% des cas, eh bien, on connaît la cause, puisque certaines familles donc, sont atteintes de maladies d'Alzheimer. Et là, c'est lié à des mutations de gènes. Et en particulier, on connaît la mutation du gène codant pour le précurseur de ce peptide. Et les mutations, elles sont ciblées sur les sites de coupure par les petits ciseaux cellulaires. Donc si on a ces mutations à cet endroit-là, et ça favorise encore plus la coupure, et donc ça favorise encore plus la production de ce peptide. Et il existe une autre mutation aussi bien connue dans les formes familiales Alzheimer, qui cible une autre protéine qu'on appelle la présénéline. Et c'est une protéine qui est également actrice dans la production de ce peptide. À côté de ces plaques amyloïdes, il y a une autre lésion importante dans la maladie d'Alzheimer qui est représentée par les dégénérescences neurofibrillaires. Donc le sigle utilisé souvent, ce sont les DNF. Alors pour comprendre en fait cette lésion, il faut juste rappeler que nos cellules, en fait, elles tiennent grâce à une charpente. Et cette charpente, elle est constituée de différents tubes, tuyaux. Et lorsque ces tubes et ces tuyaux sont désorganisés, la charpente tombe, c'est comme une maison, et la cellule, là, va mourir. Donc, dans ces tubes, au niveau de ces tubes, eh bien, il y a des protéines qui sont associées à ces tubes et qui stabilisent, en fait, cette charpente. Et parmi ces protéines, il y en a une qu'on appelle la protéine tau. Et le problème qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, c'est que cette protéine tau, en fait, elle perd son affinité pour ces tubes, pour la charpente, parce qu'elle est sous une forme anormale. Alors, je vais rentrer juste dans un petit terme scientifique. Elle est hyperphosphorylée. Vous pouvez oublier tout de suite ce mot si vous voulez. C'est pour vous dire que sous cette forme-là, en tout cas, elle est anormale. Elle perd sa capacité de liaison à ce tube. Et elle se retrouve donc dans la cellule et elle va s'associer avec d'autres protéines tau, parce qu'il y en a plusieurs dans la cellule, former des paires hélicoïdales qui s'accumulent et on parle de dégénérescence neurofibrillaire que l'on peut bien sûr suivre dans la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, on voit que ces DNF, au fur et à mesure que la maladie avance, eh bien, viennent atteindre complètement tout le cerveau. Ça commence au niveau de l'hippocampe et ça progresse vers le cortex frontal et atteint tout le cortex. Alors, ces deux grandes lésions principales qui sont représentées par les plaques et les DNF, eh bien, conduisent à la perte neuronale. La maladie d'Alzheimer est caractérisée par une perte de neurones. Et on peut le voir ici sur ces photos donc, de cerveau. Le sujet qui présente une maladie d'Alzheimer a un cerveau atrophié par rapport à un cerveau tout à fait normal avec une dilatation des ventricules cérébraux. À leur côté de ces deux lésions principales, la maladie d'Alzheimer, comme d'autres maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, eh bien, est caractérisée par une réaction inflammatoire. Une réaction inflammatoire, je vais dire que cette réaction, elle est tout à fait logique et physiologique, puisque le sujet produit en fait un peptide qui est insoluble, qui va être libéré dans le parenchyme cérébral, et donc ça va réveiller tout de suite des cellules de surveillance du cerveau. Ces cellules de surveillance du cerveau, on les connaît très bien, elles portent le nom de cellules microgliales, et elles vont venir tout de suite au niveau de la plaque amyloïde, et le but, c'est de dégérer, d'éliminer ce dépôt amyloïde. Alors, ces cellules microgliales, il faut savoir qu'elles sont présentes en permanence dans le cerveau. Alors, à l'état de repos, elles surveillent, elles scrutent le cerveau, et dès qu'il y a un élément un peu étranger, ici, on peut considérer que le peptide amyloïde, c'est quelque chose d'anormal, d'étranger, eh bien, elle va vraiment changer de morphologie, même si c'est un schéma ici, plus tard j'aurai un autre schéma qui vous montrera en fait que cette cellule prend vraiment l'aspect d'une pieuvre, c'est une véritable pieuvre qui va donc englober cette plaque amyloïde et son rôle, eh bien, c'est de digérer ce peptide et de l'éliminer. Malheureusement, la réaction inflammatoire d'un maladie d'Alzheimer, au début, si elle est physiologique, normale, eh bien, au fur et à mesure que la maladie évolue, elle devient au contraire toxique, cette réaction inflammatoire, puisque ces cellules-là, pour être réactives, elles produisent énormément de facteurs inflammatoires, et ces facteurs deviennent toxiques non seulement pour les neurones, donc les neurones vont... L'inflammation participe à la mort des neurones, mais également, ces facteurs inflammatoires seraient toxiques pour la cellule microgliale. Je reviendrai dessus dans un instant. Alors donc, devant ces principales lésions de la maladie d'Alzheimer, la recherche, bien sûr, essaie de de trouver des solutions contre les plaques amyloïdes, essaie de limiter les dégénérescences neurofibrillaires, essaie également de cibler l'inflammation pour limiter ce feu inflammatoire. Et pour cela, la recherche donc dispose de certains modèles expérimentaux. Alors, quand on se pose une question, quel que soit le domaine de recherche, ici c'est le cas de la maladie d'Alzheimer, la première question en général qu'on se pose, on va essayer de l'aborder dans un modèle simple. Et donc, on va commencer par travailler sur des cultures cellulaires, donc au laboratoire ici à Poitiers. On est capable de réaliser des cultures primaires de neurones. Vous voyez ici quelques neurones. Mais on peut avoir des modèles beaucoup plus complexes qui modélisent plus le cerveau, puisqu'on peut y greffer les cellules de soutien des neurones, qu'on appelle les astrocytes. Et puis, on lui a également greffé les cellules de surveillance du cerveau, donc les cellules microgliales. Donc ces cellules-là nous rendent vraiment service, puisqu'on peut bien sûr les exposer aux toxiques amyloïdes. On peut également induire la phosphorylation de la protéine Tau et regarder si certaines molécules peuvent prévenir ces lésions. Quand on a des résultats déjà encourageants au niveau cellulaire, ça nous stimule énormément de passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on va faire appel à l'animal. Et dans la maladie d'Alzheimer, pour l'instant, le modèle le plus utilisé dans les laboratoires, c'est la souris, et c'est pas la souris sauvage, c'est la souris transgénique. Donc c'est une souris qui développe la maladie d'Alzheimer. Donc je vais justement un petit peu m'étendre sur ce modèle, puisque c'est un modèle qu'on dispose à Poitiers et sur lequel on travaille. Donc c'est de la transgénèse animale pour obtenir une souris transgénique Alzheimer. Rappelez-vous, dans l'introduction, je vous ai parlé de certaines formes familiales. Donc on connaît des gènes, le gène du précurseur du peptide amyloïde et le gène de la présinyline. Donc on est capable d'apporter dans un ovule fécondé d'une souris gravide, on est capable d'apporter dans un ovule fécondé, alors c'est d'une technique extrêmement délicate, il faut avoir une expérience, tout se passe dans des conditions physiologiques au niveau de la température, et sous microscope, donc, on va venir micro-injecter le gène, par exemple le gène qui code pour le précurseur du peptide amyloïde, mais le gène muté cette fois-ci, parce que ce qu'on le veut, c'est que la souris développe des plaques amyloïdes. Mais on peut également apporter ici le gène qui code pour la protéine Tau mutée. Alors je voudrais juste faire une petite remarque, c'est qu'on connaît des formes familiales Alzheimer liées à des mutations de ce précurseur, mais on ne connaît pas du tout de formes familiales Alzheimer liées à la mutation du gène codant pour la protéine Tau. Alors vous allez me dire, mais alors quel gène on prend ? Eh bien, il faut savoir que ces DNF, que ces dégénérescences neurofibrillaires que développe le patient Alzheimer, comme on peut le faire développer par la souris, c'est pas propre à la maladie d'Alzheimer, ça se retrouve dans d'autres pathologies, d'autres démences. Et donc, il y a une démence qui, elle, par contre, est liée à une mutation du gène de la protéine Tau. Donc, on prend ce gène et on vient l'injecter dans le noyau de l'ovule fécondé et on espère avoir donc un souriceau qui développe eh bien, les dégénérescences neurofibrillaires. Alors, il y a énormément de modèles sur lesquels on se base seulement sur la production des plaques amyloïdes et d'autres essentiellement sur les DNF. Alors, ce n'est pas forcément parfait puisque la maladie d'Alzheimer associe ces deux lésions. Donc, qu'ont fait les chercheurs ? Eh bien, ils ont pris une souris, on va dire APP, donc qui produit des plaques, et ils l'ont croisé avec des souris qui produisent des DNF. Et donc, ils ont en finale une souris qui est capable de produire les plaques et les DNF. Alors, même si ces modèles de souris transgéniques ne répondent pas aux 95% de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, puisque je vous dis, ce n'est pas d'origine génétique, la cause est inconnue, ça permet quand même ces modèles-là après, d'aller étudier des mécanismes de toxicité de ce peptide amyloïde, découvrir de nouvelles cibles et également tester des molécules à visée thérapeutique. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur les souris transgéniques. ça reste encore un modèle, ça reste un modèle très très utilisé. Et c'est d'ailleurs des résultats sur ces souris qui ont permis de passer ensuite chez l'homme à certains traitements. Alors bien sûr, on s'intéresse à des modèles non transgéniques où on ne va pas modifier du tout le génome de la souris. Et donc, dans le laboratoire, par exemple, il y a un projet de développement d'un modèle, pas la souris, mais le rat, où on ne va pas du tout manipuler son génome. On va induire chez le rat, de façon donc non transgénique, on va lui induire l'expression de la protéine tau à l'état hyperphosphorylé, et on va lui apporter directement dans le cerveau ce peptide amyloïde, ce peptide agrégé qui se dépose et qui est insoluble. Donc là, on est au stade du développement de ce modèle. On pourra en dire plus d'ici 2 ans à 3 ans après ce travail. Alors, je vais revenir sur les modèles. Donc, on a les modèles animaux. Et bien sûr, quand là, on a des résultats très satisfaisants, c'est par exemple le cas de la vaccination. Dans la maladie d'Alzheimer, on a eu des résultats spectaculaires chez les souris. On avait le cerveau complètement nettoyé, plus de plaques amyloïdes. Et ces souris, en plus, elles avaient en fait récupéré au niveau de la mémoire. Et bien, à ce moment-là, quand on a ces résultats-là, il y a toute une démarche administrative de dépôt de dossier avant d'obtenir l'autorisation, mais on passe chez l'homme. Et on va donc tester la stratégie thérapeutique qu'on a mis en place dans les modèles précliniques. On va la passer donc au niveau clinique. Alors, chez l'homme, c'est pour aussi donc appliquer les stratégies thérapeutiques, mais chez l'homme aussi, on a besoin des prélèvements des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, des prélèvements sanguins, des prélèvements issus du liquide céphalo-rachidien, parce qu'on est également très, très intéressé par une recherche visant à identifier des marqueurs pour dépister précocement la maladie. Donc c'est en ayant des sangs de patients atteints de la maladie d'Alzheimer versus des sangs de patients du même âge mais non atteints de démence qu'on pourra essayer de définir peut-être une signature de la maladie d'Alzheimer et pouvoir la détecter plus précocement. Alors donc, à partir de ces modèles, on peut parler de quelques résultats. Certains sont négatifs au niveau de l'homme, mais d'autres seront positifs. Alors, les premiers résultats que je voulais vous présenter, donc, ce sont des résultats qui ont vraiment donné des résultats spectaculaires au niveau des souris, bien sûr au niveau de la cellule, mais après au niveau de l'animal. Et donc, on est passé chez l'homme. Et donc, malheureusement, c'est tombé à l'eau. Par exemple, je vais citer la compagnie Lilly, qui a mené un essai de phase 2 avec un inhibiteur, donc une molécule qui va bloquer ces petits ciseaux cellulaires dont j'ai parlé dans l'introduction, et en particulier qui ciblait le ciseau bêta-sécrétase. Donc cette molécule, c'est vrai qu'elle visait à s'opposer à la production du peptide amyloïde, mais malheureusement, chez le patient, elle est source d'effets secondaires, et en particulier d'atteinte hépatique, ce qui a mené à l'arrêt de l'essai. Et c'est très récent, puisque c'était 2 juin 2013. Vous avez tous entendu parler dans la maladie d'Alzheimer des projets de vaccination. Alors la vaccination qui consistait à apporter le peptide amyloïde pour que l'organisme s'immunise contre ce peptide, ça a été un échec aussi, alors que ça donnait des résultats excellents au niveau de l'animal. Et donc on est passé maintenant plus sur un programme de vaccination. On parle de vaccination passive puisque là, on apporte directement les anticorps dirigés contre le peptide bêta-amyloïde. Et on a la compagnie Baxter International aux États-Unis qui malheureusement aussi, en mai dernier, donc, a arrêté ses essais de phase 3. On était quand même arrivé en phase 3. Il faut atteindre la phase 4 et 5 pour qu'il y ait commercialisation du médicament. C'est le médicament Gamagar qui est un anticorps qui est dirigé contre ce peptide et qui, malheureusement, n'apportait pas d'effet significatif bénéfique sur les troubles cognitifs que présentent les patients Alzheimer. Alors, à côté de cela, toujours en ciblant le peptide amyloïde, Eh bien, je voulais parler des premiers résultats prometteurs in vitro. Là, on s'est posé la question de l'effet bénéfique d'une molécule dont je vais détailler, mais au niveau cellulaire dans un premier temps. Alors, il s'agit en fait d'un projet qui est intitulé Vinox. C'est un projet en fait dans lequel donc l'équipe Simothema est associée avec l'Institut de chimie verte IC2MP sur le campus universitaire et une industrie, l'industrie Valagro. Et ce projet, en fait, il n'a pu se faire que grâce au soutien financier de la région Poitou-Charentes. Ça, il faut le souligner, parce que sans ce soutien, on ne pouvait rien faire. Et donc, ce projet consistait, en fait, à extraire des sarments de vigne, une molécule qui fait partie d'une famille. Vous avez entendu parler certainement peut-être des polyphénols dans le vin. Et parmi les polyphénols, on connaît très, très bien cette molécule, le resvératrol, qui a été utilisé pas que dans la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai que quand on regarde la littérature sur le resvératrol, elle est très très riche. Il a toutes les propriétés qu'on attend, mais pour l'instant, on n'a pas de résultat chez le patient, parce que la seule étude qui est en cours actuellement avec le resvératrol, elle est menée aux États-Unis et il n'y a aucun résultat de traduit dans la littérature pour l'instant. Et donc, nous, au lieu de s'intéresser au resvératrol, on l'utilise comme molécule de référence, mais on a été tester une autre molécule qui est extraite par ces chimistes de l'IC2MP. Il s'agit de la viniférine. Donc c'est un autre polyphénol qui serait plus actif que le resvératrol. Donc nous, on l'a testé sur des cellules qui étaient exposées en fait aux peptides amyloïdes préalablement agrégés. Donc vous voyez ce que ça donne des plaques amyloïdes en microscopie électronique. Voilà, ça fait un aspect un peu cotonneux ici, un amas bien consolidé. Et quand on traite les cellules avec soit le resvératrol, viniférine, on voit déjà que cet amas est beaucoup plus fin avec le resvératrol. Mais ce qui nous a vraiment frappé, c'est vraiment la dégradation presque totale. Je ne veux pas dire qu'elle est totale, vous le voyez encore, il y a encore un morceau ici. Mais en tout cas, on est passé de ça à ça. Donc, la viniférine aurait vraiment des propriétés désagrégeantes. Et à côté de ce travail, qui est piloté par le docteur Agnès Rubilan et le docteur Jérôme Guillard, qui lui est dans le laboratoire IC2MP, eh bien, on a aussi prouvé que cette molécule avait des propriétés anti-inflammatoires et des propriétés cytoprotectrices. Donc là, on arrive au bilan de la phase 1, parce qu'on avait l'argent que pour l'année 2013. Et donc, la région nous a écoutés il y a une semaine. On a présenté la phase 2 parce que maintenant, nous n'avons qu'une envie, c'est de passer chez l'animal au niveau de la souris. Et on verra au niveau des résultats. Donc, il y a un programme qui est déjà planifié, programmé pour 2014, mais on ne pourra le faire que si on a de l'argent, malheureusement. Il nous faut de l'argent. Alors, autre résultat prometteur chez la souris et maintenant, c'est passé au niveau clinique. Je vous ai parlé de la protéine tau qui est sous une forme anormale, j'ai dit hyperphosphorylée. En fait, cette forme anormale, elle est liée à une activité d'enzyme. Donc cette enzyme ici qu'on appelle GSK3-bêta avec son nom barbare. Et donc les auteurs ont cherché à bloquer cette activité enzymatique pour prévenir la production de la forme anormale de la protéine tau. Et donc, il y a un essai clinique en cours et qui est assuré par la compagnie Nocera en Allemagne. Donc, il a été initié en avril 2011. Ils ont déjà fourni les résultats en 2012 de la phase 2A. Et devant des résultats satisfaisants, eh bien, ils ont programmé la phase 2B avec un nombre beaucoup plus important de patients dans l'étude. Et on devrait avoir les résultats, ils parlaient de fin 2013, on y est bientôt, fin 2013, alors on va attendre début 2014 avec cet inhibiteur. Mais il n'y a pas d'essai en France, c'est un essai en Allemagne. Et alors, vous avez tous aussi entendu parler des anti-inflammatoires, même pendant une période, les médias stimulaient en fait les personnes à prendre tous les soirs son ibuprofène pour prévenir le développement de la maladie d'Alzheimer. J'espère que vous ne l'avez pas fait. En fait, tous les anti-inflammatoires ont été testés dans des programmes cliniques de la maladie d'Alzheimer. Et malheureusement, ces anti-inflammatoires, c'est vrai que l'idée était logique dans le sens où on voulait bloquer en fait le feu inflammatoire au niveau du cerveau. Malheureusement, en bloquant ce feu, ça dépendait à quel stade on donnait l'anti-inflammatoire. Si on le donnait très précocement, eh bien malheureusement, on bloquait cette réponse physiologique qui est assurée par les cellules microgliales que je vous ai parlé au début de mon intervention. Et donc, comme leur efficacité n'est pas prouvée dans la maladie, ils ne sont pas recommandés dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, je vais bien sûr m'attacher un petit peu sur un espoir, une ouverture sur une nouvelle stratégie de la maladie d'Alzheimer. Je vous ai parlé de la cellule microgliale qui va donc prendre en charge le peptide amyloïde au départ et qui va donc le digérer, l'éliminer. Ça se verrait en principe au stade léger à modéré. Et on l'appellerait donc la bonne microglie, celle qui est active, qui est capable d'éliminer le peptide. Mais malheureusement, au fur et à mesure que la maladie progresse, cette cellule microgliale, elle change complètement de forme et elle perd ses capacités à éliminer le peptide bêta-amyloïde. Et là, on parle de la mauvaise microglie. Et cette cellule microgliale, n'étant plus capable de phagocyter, d'éliminer ce peptide bêta-amyloïde, pourrait envoyer des messages SOS vers le système nerveux périphérique. Et donc, c'est cette ouverture-là que j'aimerais faire. C'est que maintenant, pour la maladie d'Alzheimer, puisqu'on a un petit peu exploré beaucoup de choses, on essaie maintenant de se tourner vers le système immunitaire périphérique. Il y a des cellules dans le sang qui sont des cellules, donc vous les connaissez comme les lymphocytes ou les monocytes, et qui sont capables de passer en fait une barrière, la barrière qui sépare le système nerveux central du système nerveux périphérique. Il s'agit d'une barrière vasculaire, la barrière hémato-encéphalique, on l'appelle. Et donc ces cellules peuvent passer en fait du milieu périphérique vers le système nerveux central. Et il est noté que ces cellules seraient beaucoup plus efficace que la microglie qui, en fait, devient sénescente. La microglie devient sénescente. Il serait beaucoup plus efficace pour éliminer ce peptide. Donc, ce sont des données dans la littérature qui ont permis, dans le laboratoire, de développer un axe 1 que j'anime avec le docteur Thierry Janet et qui consiste d'abord, dans un premier temps, à développer un modèle, parce qu'on est obligé de passer au niveau cellulaire dans un premier temps, un modèle de barrière hémato-encéphalique. Donc, comment on constitue ce modèle? Vous avez ici de schématiser en fait le puits d'une boîte de culture. Et dans ce puits, en fait, repose un petit panier au fond duquel vous avez un tamis. Et sur ce tamis, en fait, on a fait cultiver les cellules qui composent la barrière. Donc, on va retrouver, comme c'est la barrière, c'est un vaisseau, on va retrouver des cellules endothéliales. On a d'autres cellules qu'on appelle les péricytes, qui sont des cellules indispensables aussi à la contraction du vaisseau. Et donc, dessous, tout au fond du puits, on a ensemencé en fait les cellules qu'on retrouve dans le parenchyme cérébral, donc les cellules de soutien, les cellules de surveillance, les cellules microgliales, et dans le vaisseau, donc qui pourrait être ici modélisé par le puits, eh bien, on vient déposer les cellules du sang. Donc, on vient déposer des lymphocytes, des monocytes. Et on a donc travaillé avec une étudiante, Julie Vérité, qui a beaucoup animé la semaine sur le cerveau et le thème sur le cerveau ici à l'espace Pierre Mendès France. On est venu déposer donc sur ce panier des cellules de sang de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, parce que ce modèle, on l'a développé aussi bien au niveau humain qu'au niveau murin. Donc on a voulu faire deux types de barrières, la barrière de souris et la barrière de l'homme. Et le but, c'était vraiment de chercher à identifier des facteurs, ces petites molécules jaunes, vertes, rouges, qui pourraient favoriser le passage de ces cellules à travers la barrière pour bien aller éliminer le peptide bêta-amyloïde qui ne peut plus être dégradé par la microglie qui devient sénescente. Et donc, quand on va avoir cette signature, quand on va avoir un petit peu le cocktail pertinent qui permet le passage, eh bien, on espère pouvoir donner ces petites molécules ensemble à nos souris dans un premier temps pour voir si ça améliore, si elles développent moins de plaques. Et pourquoi pas, peut-être un jour, un espoir de proposer cette gélule pétillante aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Voilà, c'est juste un espoir, c'est un gros travail, il va me demander encore plusieurs années avant d'arriver au bout. Mais je pense que la périphérie a son mot à dire dans la pathologie centrale de la maladie d'Alzheimer. Et donc, je voudrais terminer, avant de laisser la parole à mon collègue, remercier toutes les associations qui nous ont aidés dans les travaux de recherche. Mais le plus grand merci va vers les donateurs, car sans eux, eh bien, on ne peut plus faire de recherche. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Guylaine. Donc, vous avez vu, Guylaine nous a montré toute l'expertise qu'elle avait dans cette maladie et tout ce qui est fait à Poitiers même. Moi, je vais revenir sur les deux acteurs principaux qui sont la plaque amyloïde et la dégénérescence neurofibrillaire pour vous montrer les progrès aujourd'hui qui ont été faits au niveau des examens complémentaires. Et puis, j'aborderai également les progrès au niveau de la recherche médicamenteuse. Alors, très rapidement, c'est Alois Alzheimer. Hein, vous le savez, il y a maintenant 105 ans qu'il a décrit cette maladie et les lames de cerveau qu'il analysait, ben c'est les mêmes que nous avons aujourd'hui avec la plaque amyloïde, donc la dégénérescence neurofibrillaire et cette maladie dont nous sommes tous touchés sur un plan personnel ou professionnel et qui donc est un véritable défi sur le plan humain et thérapeutique. Notre vrai souci, c'est d'abord de bannir le terme de démence. Le syndrome démentiel, c'est quelque chose qui est très difficile à porter et il est très important qu'on arrive à faire un diagnostic le plus précoce possible de cette maladie, à un stade de maladie où nous avons encore toute notre autonomie. Le problème, c'est faire un diagnostic à un stade de maladie. C'est pourquoi ? Pourquoi le faire rapidement si aujourd'hui on n'a pas évidemment les traitements médicamenteux pour résoudre les problèmes ? La découverte de traitements médicamenteux passera par des diagnostics précoces de la maladie et je vais y revenir. Pour qui c'est bien sûr les problèmes de plainte de mémoire. On n'est pas ici dans le dépistage comme on peut tous faire à la cinquantaine pour le cancer du côlon où on reçoit une recherche de sang à faire dans les selles parce qu'aujourd'hui on connaît le traitement du cancer du côlon. Donc c'est un dépistage qu'on peut faire de grande masse dans le cadre d'un maladie d'Alzheimer. L'objectif c'est d'abord tenir compte et s'occuper de ceux qui ont une plainte de mémoire. Alors pour avoir des outils pour un diagnostic précoce, il faut donc avoir cette plainte de mémoire. Et cette plainte de mémoire, grâce aux psychologues et aux orthophonistes, on a tous les moyens de lui donner la connotation la plus proche de la maladie d'Alzheimer, puisque l'Alzheimer touche une zone très spécifique du cerveau initialement, qui entraîne des troubles très spécifiques de la mémoire. C'est malheureusement pas toujours très caricatural, parce qu'on peut cumuler les pathologies, et puis on a également notre personnalité qui peut jouer un rôle. Et bien, en tous les cas, à partir de ces patients qui ont une plainte de mémoire Alzheimer caricaturale, aujourd'hui, les progrès sont dans l'imagerie structurale, dans l'imagerie fonctionnelle, au niveau de l'analyse du liquide céphalorachidien et même en génétique. Imagerie cérébrale, vous connaissez tous l'IRM cérébral, hein, le super scanner entre guillemets. Et bien, comme je vous disais, la maladie touche initialement une zone qui s'appelle l'hippocampe au niveau temporal interne et ce que l'on voit, c'est que cet hippocampe, au fil du temps, s'atrophie. Guylaine vous montrait tout à l'heure le cerveau qui s'atrophiait. Eh bien, l'atrophie du cerveau va commencer au niveau de cet hippocampe. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons en routine au niveau des patients Alzheimer de faire des imageries tous les 18 mois. Mais si on était amené à faire des imageries au cours du temps, on verrait peu à peu l'hippocampe s'atrophier. Attention, ce n'est pas caricatural. Un hippocampe qui s'atrophie, il peut y avoir d'autres pathologies sous-jacentes sans rapport avec la maladie d'Alzheimer. Les plus gros progrès, c'est probablement l'imagerie fonctionnelle. L'imagerie fonctionnelle, il y a ici Rémi Perdriseau qui est le chef de service de médecine nucléaire au CHU. Il y a l'imagerie fonctionnelle d'hier et l'imagerie fonctionnelle de demain peut-être. L'imagerie fonctionnelle d'hier, je vais schématiser, on donnait à manger aux neurones. Les neurones qui mangent, ils apparaissent en tout rouge. Les neurones qui ne mangent pas, ils apparaissent en tout jaune. Et comme par hasard, si les neurones qui ne mangent pas sont dans l'hippocampe, on peut dire que c'est une imagerie fonctionnelle qui montre des lésions éventuellement en rapport avec une maladie d'Alzheimer. Les progrès, probablement à partir de 2014, puisqu'il y a une autorisation européenne, mais on attend encore sur le plan national toutes les autorisations, il y a maintenant des marqueurs de la plaque amyloïde. Cette plaque amyloïde dont vous parlez Guylaine, eh bien, vous avez un marqueur, et c'est avec des traceurs radioactifs, et je crois que c'est Toulouse qui livrera Poitiers, sauf erreur. Eh bien, on va pouvoir aujourd'hui marquer directement les plaques amyloïdes, c'est-à-dire voir si le patient a des plaques amyloïdes. Attention, on aura tous des plaques amyloïdes au cours de la vie, ce qui ne fera pas forcément de nous des patients Alzheimer. D'accord ? En revanche, c'est vrai que les études autopsiques ont toujours trouvé des plaques amyloïdes chez les patients Alzheimer. Et puis, il y a bien sûr beaucoup d'autres traceurs qui sont réalisés aux États-Unis et peuvent également marquer directement cette plaque amyloïde. Les autres progrès, c'est aussi celui de trouver un marqueur biologique. Notre vrai souci, si vous avez un problème de diabète, vous avez un problème de thyroïde, on fait une prise de sang et on fait le diagnostic de diabète ou de problème de la thyroïde. Si vous avez une maladie d'Alzheimer, tout est dans le cerveau. Guylaine a abordé la barrière hématoencéphalique. On sait que les échanges entre le système nerveux central et la périphérie existent, mais ce n'est pas véritablement un reflet de ce qui se passe au niveau du système nerveux central. Donc aujourd'hui, on ne peut pas chercher la plaque amyloïde ou la dégénérescence neurofibrillaire, cette fameuse protéine tau dans le sang. Ça veut tout dire et rien aujourd'hui. Donc on ne peut pas du tout l'utiliser. C'est plus intéressant au niveau du liquide céphalo-rachidien. Alors tous la ponction lombaire, on attribue ça à la méningite ou au malaise vagal, c'est normal. Bon, lorsqu'elle est faite par des gens experts et puis auprès de patients d'un âge un peu plus mûr, c'est beaucoup mieux toléré que chez les plus jeunes. Eh bien, on peut aller doser cette fameuse plaque amyloïde et doser cette protéine qui est à la genèse de la dégénérescence neurofibrillaire. Et c'est comme ça qu'on travaille, qu'on progresse et qu'on essaie, sur le plan européen ou mondial, de trouver des spécificités de plus en plus pointues pour donner le maximum de crédit aux résultats qu'on trouverait. Mais c'est facile à dire, c'est de la technique, il faut des prélèvements dans des conditions particulières, il faut que la technicité soit assez rapide, et forcément tout cela est coûteux. Imagerie fonctionnelle, le liquide céphalo-rachidien, l'IRM cérébral, tout ça, il faut faire attention. Ce sont des progrès énormes qui ont eu lieu au cours des dernières années, mais qui ne se sont pas accompagnés de progrès sur le plan du traitement médicamenteux. Donc il y a ces progrès, mais il faut être sûr que tous ces progrès qu'on a trouvés soient véritablement très significatifs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire cela en routine de manière désordonnée et non pertinente. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ces consultations mémoire qui ont émergé dans tout le Poitou-Charentes et à Poitiers, grâce à M. Gilles, l'émergence du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, qui permet d'avoir ces missions de recherche, et Guylaine Page en est forcément le meilleur porteur. La mission éthique, et bien sûr, c'est le professeur Roger Gilles qui la gère, et puis des missions d'enseignement et de réflexion, puisque nous, au sein de Poitiers, il y a des visioconférences mensuelles avec nos collègues d'Angoulême, de Châtellerault, de La Rochelle, pour discuter de dossiers compliqués, et puis peut-être pour décider de faire ces imageries fonctionnelles ou cette ponction lombaire pour aller éventuellement plus loin dans le diagnostic, sachant que rien n'est un blanc-seing et qu'il faut vraiment réfléchir sur tous les résultats que l'on a. On n'a parfois pas du tout la réponse, malgré toute cette technicité. Et donc, il faut savoir inscrire le patient dans un suivi pour, bien sûr, répondre aux questions, être informatif, et puis peut-être aller un jour vers un diagnostic et j'espère un traitement. Tous ces examens dont je vous ai parlé, il faut vraiment qu'ils soient crédibles et pertinents. Il y a l'initiative du ministère de la Santé, et c'est géré par l'équipe de Jean-François Dartigues à Bordeaux. Il y a une étude qui s'appelle Memento, où on fait appel à 2400 volontaires français qui ont une plainte de mémoire isolée, sans retentissement sur le quotidien, qui consultent pour cette plainte de mémoire, parce que vraiment, ça les questionne. Eh bien, ils entrent dans cette étude avec évidemment une lettre d'information, un consentement éclairé, et ils vont avoir cette imagerie standard, l'IRM cérébral, ils vont avoir l'imagerie fonctionnelle, ils vont avoir la ponction lombaire s'ils l'acceptent, et on va les suivre pendant 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer au bout des 5 ans? Parmi ces volontaires qui ont une plainte de mémoire, certains auront toujours la plainte de mémoire sans autre modification. D'autres auront éventuellement évolué vers une maladie d'Alzheimer. D'autres enfin auront évolué vers d'autres maladies apparentées. Et on reviendra 5 ans en avant. En quoi ces examens coûteux et qui sont le marqueur du progrès aujourd'hui, l'IRM cérébral, l'imagerie fonctionnelle, la ponction lombaire, en quoi ces examens avaient donné des résultats qui pouvaient éventuellement prédire? l'évolution serait vers une stabilité ou vers une maladie neurodégénérative. Et ça, c'est très important. Parce que si ces examens ne montrent pas ça, ils sont coûteux, ils sont source de beaucoup d'interrogations, et il ne faut pas les faire en routine. Si en revanche, ces examens donnent des arguments très forts pour prédire malheureusement, mais à un stade très précoce, que la maladie risque de survenir, eh bien là, c'est un enjeu capital par rapport à la recherche médicamenteuse. Ça veut dire qu'on pourrait dépister précocement la maladie et du coup, utiliser des médicaments au stade les plus précoces possible. Et ça, c'est très important puisque j'ai commencé en parlant du problème de la démence, déjà sur le plan de recevoir ce diagnostic de démence, mais de se dire, malheureusement, lorsqu'on est arrivé à un stade où les troubles retentissent énormément sur le quotidien, il y a peu de chances, malheureusement, qu'on trouve un traitement pour arriver à faire marche arrière à ce moment-là. Alors, la thérapeutique, Guylaine en a un petit peu parlé, il y a la prise en charge non médicamenteuse, ça c'est la réponse humaine, c'est tous les jours. Malheureusement, toutes ces bonnes volontés humaines, sur le plan de la mémoire, elles n'ont pas porté leurs fruits, mais c'est un vrai bien-être, c'est une vraie qualité de vie. Et aujourd'hui, vous savez, même si c'est insuffisant, qu'il y a plein d'acteurs de l'Association France Alzheimer, de toutes les soignants, les aidants, les équipes spécialisées Alzheimer, il y a énormément de choses, les accueils de jour qui sont réalisés pour donner un petit peu de sourire et maintenir au maximum les capacités. Et puis il y a les traitements. Les traitements, aujourd'hui, se focalisent sur la plaque amyloïde et sur la dégénérescence neurofibrillaire. Voici tous les essais médicamenteux qui sont en cours aujourd'hui. Chez l'animal, c'est la grande boucle. Et puis petit à petit, on arrive à passer chez l'homme. Si c'est bien toléré, on essaie des essais d'efficacité. Et puis aujourd'hui, on a en pharmacie toujours 4 molécules comme il y a 10 ans. Et bien sûr, on espère que d'autres molécules vont arriver aujourd'hui. Alors les autres molécules, elles étaient initialement essentiellement centralisées sur la plaque amyloïde. Hein, Guylaine nous en a parlé, hein, cette protéine amyloïde que l'on a, et puis ces fameux ciseaux qui viennent la couper et qui donnent naissance à ces peptides qui s'agrègent comme une toile d'araignée et qui tuent le neurone. Et puis Guylaine nous a dit effectivement qu'on a eu des essais qui ont malheureusement échoué alors que les phases initiales chez l'animal ou les phases de tolérance étaient satisfaisantes. Eh bien, certains essais, malheureusement, ont été arrêtés. Mais la recherche apprend de ces erreurs. C'est le crédit qu'il faut se donner. Et c'est forcément trop long pour les patients et pour les familles des patients. C'est à l'échelon de dizaines d'années pour avoir vraiment des découvertes importantes. Mais la recherche apprend de ces erreurs. Guylaine vous en a parlé. À partir des souris Alzheimer, on avait essayé un vaccin où on injectait directement le peptide amyloïde. Et regardez, à l'échelon de la souris, lorsqu'on injectait le vaccin, eh bien, ces fameuses plaques amyloïdes disparaissaient. Et donc, on a voulu passer à l'échelon humain. Et malheureusement, dans les années 90, il y a eu des effets indésirables très très sévères, voire fatales. Donc, cette vaccination par la protéine amyloïde a été un échec chez l'homme. Donc, on a rebondi en non pas injectant le peptide amyloïde, mais en injectant l'anticorps. Parmi vous, certains sont vaccinés contre la grippe. Le fait d'avoir été vacciné contre la grippe a fait que vous avez synthétisé des anticorps. Et lorsque vous allez croiser le virus dans les semaines qui vont venir, les anticorps vont faire le travail et vous ne ferez pas de grippe sévère, ça c'est certain. Et bien là, on sait que les souris Alzheimer qu'on a créé Alzheimer fabriquent des anticorps. On récupère les anticorps de la souris, on les humanise, c'est des processus industriels qui sont bien maîtrisés, et on peut les injecter à l'homme. Et là, c'est l'aventure qu'on a vécue au cours des 3 dernières années, avec un vaccin par les anticorps. Regardez l'aventure à laquelle les patients et les aidants ont accepté de participer. C'était sur 78 semaines, avec une injection qui était faite toutes les 13 semaines, avec des IRM cérébrales toutes les 13 semaines, et bien sûr avec les psychologues et les orthophonistes qui venaient pour voir l'évolution de la mémoire. Il y avait beaucoup d'espoir, puisque je vous ai parlé de la scintigraphie fonctionnelle tout à l'heure, avec le marquage des plaques amyloïdes. Voyez un patient avant ce vaccin, avant d'anticorps, et après, au bout des 13 injections, vous voyez beaucoup moins de plaques rouges, donc la plaque amyloïde semblait diminuer sous l'effet de ce vaccin. Là, c'est le cas d'un volontaire, avec un peu moins de plaques au départ, mais absence de plaques après le suivi. Donc il y a eu beaucoup d'espoir, et malheureusement, l'été dernier, eh bien, une analyse au milieu du parcours a montré que par rapport au placebo, il n'y avait pas d'intérêt. Donc là, ça a été une énorme douche froide, puisque c'était un essai de phase 3. Des douches froides, on en a connu beaucoup au cours des dernières années, malheureusement. Certaines étaient à des stades chez l'animal ou des stades d'essai de tolérance et ont été très médiatisées alors qu'on n'était pas encore dans l'efficacité. Là, ça a été une douche froide, mais encore une fois, on rebondit sur les échecs. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, quand même, les laboratoires promis mettent des millions d'euros. C'est de bon ton de critiquer les laboratoires, l'industrie pharmaceutique, le médicament, les conflits d'intérêts, tout ce qu'on veut. L'essai dont je vous parle, avec les anticorps, il y a la firme Pfizer qui l'a mené et ça a été un échec. En même temps, la firme Lilly l'a mené et la firme Lilly est arrivée malheureusement aussi à un constat d'échec. Mais quand ils ont fait une analyse en sous-groupe, ils ont trouvé quand même qu'il y avait potentiellement un profil de patient répondeur à ce vaccin anticorps. Et ça, c'est très important puisque ça débouche sur de nouveau une étude qui sera sur des profils de patients très spécialisés qui auront ces techniques modernes de scintigraphie, d'imagerie fonctionnelle ou de ponction lombaire qui plaident, qui donnent un argument pour une maladie d'Alzheimer, eh bien, de nouveau, c'est un espoir qui arrive avec cet essai Expédition 3 qui démarre aux États-Unis et qui va démarrer, pas sur Poitiers, mais à Toulouse et sur Paris en 2014. Autre espoir qui arrive, on parle que de la paroisse de la plaque amyloïde. C'est les amyloïdistes et c'est vrai que l'ensemble des travaux thérapeutiques médicamenteux a surtout ciblé la plaque amyloïde. La plaque amyloïde, de par malheureusement les formes génétiques qui touchent l'être humain jeune, on sait que la plaque amyloïde est impliquée dans la maladie. Mais également l'autre paroisse, celle de cette fameuse dégénérescence neurofibrillaire, cette charpente dont vous a parlé Guylaine, hein, qui permet un petit peu le transport axonal le plus stable possible. Vous voyez ici tout ce système de transport axonal qui est stabilisé grâce à cette protéine. Et dans la maladie d'Alzheimer, cette protéine devient anormale et du coup, les axones ne fonctionnent plus comme ils devraient fonctionner. Et ce qui est très important, et Guylaine vous l'a montré, c'est que dans cette dégénérescence neurofibrillaire, il y a vraiment un lien entre l'importance de la dégénérescence et les symptômes qu'ont les patients. Donc autant la plaque amyloïde sur le plan génétique, le lien est fort, autant la dégénérescence neurofibrillaire par rapport aux symptômes des patients, le lien est également très important. Eh bien, en 2014, au niveau préclinique, il y a un vaccin qui est réalisé contre la protéine tau chez l'animal et il y a également de l'espoir qui naît. Plus on avance, plus c'est compliqué, mais à chaque fois, la recherche rebondit. C'est pour ça que depuis 12 ans, je pense, quand M. Gilles m'a amené vers la maladie d'Alzheimer et que j'ai appris, on a pris beaucoup de douches froides, mais à chaque fois, il y a de quoi rebondir. C'est toujours trop long, c'est toujours difficile, mais il y a de la vraie recherche qui est faite là-dessus. Et je ne peux pas croire qu'un jour, on ne va pas arriver à trouver quelque chose. C'est vrai que ça sera probablement pour des stades pas trop avancés, mais ça sera déjà quand même un progrès dont on aura évidemment tous besoin, les patients en premier lieu. Ma dernière plaque, à l'instar de Guylaine, pour remercier tous les acteurs qui, au quotidien, dont les aidants font au mieux pour les patients atteints de cette maladie. Je vous remercie.
Voilà. Alors, je vais vous présenter l'association France Alzheimer. Alors, l'association France Alzheimer, c'est donc une association de familles au service des familles. Et on dit un malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide. C'est vrai. Une action de famille donc touchée par la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées, et une association au service des familles de la Vienne et de leurs malades. Donc ce sont des associations départementales. Notre association a été créée en 1988. Nous sommes actuellement 310 donateurs et adhérents de l'association, 20 bénévoles et administrateurs de l'association, une salariée, une secrétaire à temps partiel, une psychologue à temps partiel, et c'est la seule association de famille qui a en charge la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Nous sommes une association agréée par les pouvoirs publics, c'est-à-dire que nous représentons les usagers auprès des instances publiques. Nous sommes également membres de l'Union nationale France Alzheimer. Les objectifs de notre association, nous avons 5 objectifs, c'est aider, informer, soutenir les familles, informer l'opinion et impliquer les pouvoirs publics, contribuer à la recherche régionale et nationale, aider les institutions à faire face et participer à la sensibilisation des professionnels en formation et des bénévoles. Alors, soutenir les familles, c'est avec tout d'abord une permanence au téléphone. C'est une permanence qui est continue, je vais dire. Après la présence de la secrétaire dans nos locaux, le téléphone est renvoyé chez un bénévole et nous assurons donc une permanence téléphonique 24 heures sur 24. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a beaucoup de demandes c'est parce qu'on a des familles qui viennent, enfin des enfants par exemple, qui viennent visiter leurs parents et ils s'aperçoivent en arrivant chez ses parents, qu'ils n'ont pas vu depuis quelquefois 3 ou 4 mois, eh bien qu'il y a une forte dégradation. Et c'est souvent le samedi ou le dimanche et les services publics sont fermés et le seul secours, ben, c'est d'appeler France Alzheimer pour essayer d'avoir quelques informations puis savoir comment on fait. Donc c'est pour apporter donc une aide administrative, juridique et psychologique et on aide ces familles dans la mesure du possible, dans le soutien à domicile. On emploie le mot soutien et non pas maintien, parce que maintien, ça voudrait dire quelque part une obligation. Et là, c'est dans les possibilités de l'aidant et du malade, et dans les conditions, je dirais, raisonnables. Au moment de l'entrée en établissement et toute la durée de vie dans l'établissement, et également au moment du deuil. Alors comment ? Eh bien, on a différentes activités que nous proposons à toutes ces familles. Ce sont tout d'abord les cafés mémoire. Le café mémoire, c'est un lieu de rencontre, c'est une rencontre mensuelle que nous faisons dans un café. C'est actuellement sur Poitiers, c'est à l'atelier, en face le Grand Leclerc, où les personnes peuvent venir. Les personnes qui se posent des questions par rapport à la maladie d'Alzheimer ou qui se posent des questions pour l'accompagnement ou pour leur famille ou d'autres raisons. Donc on y vient, on rentre, on sort comme on veut, on a une consommation. On a des personnes qui peuvent venir écouter simplement, ne rien dire, mais c'est une porte ouverte. Ensuite, nous avons des groupes de parole. Les groupes de parole, ce sont des groupes qui sont issus de quelquefois, souvent de formation pour les aidants. On va le voir après. Et ce sont des groupes fermés, semi-ouverts. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui cheminent ensemble et qui peuvent échanger et se donner des nouvelles les uns aux autres et puis avoir un soutien. On a également des entretiens individuels qui sont financés par l'association, pour les membres de l'association, c'est-à-dire lorsqu'il y a des moments un peu plus difficiles ou des moments d'entre en établissement ou des périodes plus complexes de la maladie, eh bien, ces personnes peuvent avoir un temps d'accueil auprès d'un psychologue ou d'une psychologue. Nous avons également comme activité des haltes-relais. Là, la halte-relais, c'est un peu particulier. C'est une activité que l'on a en commun, le malade et son aidant principal. Un rendez-vous est donné en fin de matinée pour prendre un apéritif en commun, prendre un repas en commun. Et après un temps de repos, d'intégration, c'est une activité qui est proposée pour un après-midi. C'est une activité ludique ou faire des pâtisseries ou des choses comme ça. Mais c'est ce qui permet d'avoir une activité commune, malade avec son aidant, ou alors simplement que les aidants et les malades à part. Mais ça permet aussi à l'aidant de voir son malade dans d'autres conditions qu'à la maison, et aussi de se risquer en commun, parce qu'on a beaucoup de familles qui n'osent plus aller au restaurant, le malade et son aidant, parce que le comportement va peut-être gêner, alors que là, on est accueilli et on est vraiment libre. Ensuite, nous avons des ateliers de relaxation qui sont proposés pour les aidants qui le souhaitent. C'est parce que vous savez qu'il faut être dans de bonnes conditions pour accompagner, mais ce n'est pas toujours simple. Et quelquefois, on a besoin de décompresser et puis d'apprendre à respirer pour éloigner ce stress qui a le fâcheux inconvénient de stresser également le malade. L'association également propose des séjours de vacances, vacances répit, dans différents lieux en France, et où les malades viennent avec leurs aidants. Et il y a toute une équipe de bénévoles et de professionnels qui sont là pour s'occuper du bien-être des malades et des aidants. C'est très important parce que c'est quelque chose qui est très, très bon pour l'aidant principal et le malade. Nous avons également des rendez-vous qui sont proposés, ce sont des réunions, et notamment nous allons avoir les réunions info-famille qui vont avoir lieu dans le pôle de gériatrie du CHU au pavillon Mayol. Et ce sont des réunions de famille, et ces réunions de famille, nous les proposons également sur Châtellerault, Loudun, Montmorillon, mais Lussac les Châteaux également, Poitiers, Husson du Poitou. Donc ça, c'est ce que l'association propose donc en permanence, une réunion par mois. Également, nous avons la chance d'avoir le professeur Gilles comme président d'honneur et qui organise des conférences ouvertes pour les personnes qui le souhaitent. Et on a la chance également d'avoir des professionnels, des médecins, gériatres, neurologues qui viennent pour nous présenter tout le savoir et puis tout ce que l'on peut mettre en place. Un point important aussi, c'est pour l'information du public, c'est changer l'image de la maladie d'Alzheimer. Parce que on a une mauvaise image de cette maladie. Et alors que le projet de l'association, le beau projet de l'association, c'est lorsque l'on a un diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est comment accompagner la vie. Et la vie, elle est jusqu'au bout. Et c'est ça qui est important. Et on a besoin de changer cette image. On ne voit la maladie d'Alzheimer que dans la partie négative. Alors que ce sont des hommes, des femmes. Pour nous, ce sont nos pères, nos mères, nos épouses, nos époux. Et ce sont ceux que nous aimons. Et on a besoin de les regarder, de leur parler, de recevoir la vie de leur côté, et ils ont besoin de recevoir notre vie aussi. Et c'est pour ça que nous souhaitons beaucoup insister pour dire ne vous éloignez pas d'un couple malade et son aidant. Au contraire, continuez à le visiter. S'ils aiment les promenades, allez faire des promenades avec eux, etc. Donc c'est une exposition itinérante que nous avons avec nos amis des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime. Elle est disponible pour mettre dans les EHPAD ou dans des lieux publics. Un gros travail pour l'association, c'est la formation des aidants, les aidants familiaux. C'est-à-dire que personne n'est préparé à accompagner un malade. Accompagner un malade, c'est 365 jours par an. C'est 24 heures sur 24. C'est-à-dire pas de vacances. C'est une permanence. C'est le jour et c'est la nuit. Et quelquefois, la nuit se transforme en jour parce que le malade perd. Alors, c'est une formation qui est proposée avec. Elle dure 14 heures, c'est-à-dire l'équivalent de 2 jours. C'est 5 modules qui vont permettre de connaître la maladie d'Alzheimer, les aides possibles, les aides administratives, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, accompagner au quotidien, communiquer et comprendre la personne, et puis être l'aidant familial, c'est-à-dire prendre soin de soi. Donc, ça, c'est très important. On a plus de 300 personnes qui ont suivi ces formations là, depuis le début. Et ça a été un changement dans leur vie. C'est quelque chose de très important. Et un temps important aussi pour notre association, c'est le fameux 21 septembre de chaque année. Et c'est un rendez-vous, c'est la journée mondiale Alzheimer. Et cette année, nous avons eu la chance d'avoir eu on a eu la quête sur la voie publique. Ensuite, on a eu une conférence avec le professeur Gilles et Madame Poirier. Nous avons eu un film également, Ne m'oublie pas. Et on a eu des manifestations donc, sur Poitiers, Montmorillon et Châtellerault. Et ça, c'est vraiment très, très important. On a vraiment la chance d'avoir des bénévoles, mais ils ne sont pas nombreux. Mais ils font un travail extraordinaire. Et je voulais encore les remercier là, parce que vraiment... Nous sommes peu nombreux et on fait un travail immense par rapport à la demande. Il faut savoir quand même que sur notre département, c'est à peu près 7000 malades. Le soutien à la recherche. Aujourd'hui, donc, j'étais à Paris, j'arrive juste de Paris, et nous avions la 7e rencontre de France Alzheimer, c'est-à-dire c'est là où nous avons remis des prix, c'est-à-dire 1 200 000 euros qui ont été reversés à 17 laboratoires pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Et nous, à Poitiers, eh bien, nous sommes en lien donc, avec le Grévic, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il a changé de nom, ou hein, il a changé de nom, mais enfin bon, c'était comme ça qu'on avait appelé. Et à l'époque, mais on essaie de les soutenir parce que donc ils font un travail excellent. Également, ce que je voulais dire, c'est que France Alzheimer, l'Union France Alzheimer, qui est reconnue d'utilité publique, également a signé la charte du don en confiance. C'est-à-dire que chaque fois que nous recevons un don, eh bien, il est affecté à la demande du donateur. Et je dirais que si on reçoit 100, nous reversons 95. C'est-à-dire que nous avons le minimum de frais supportés pour le donateur. Et là, nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous, localement, mais on avait réussi à donner 3300 euros à ce laboratoire. France Alzheimer également fait partie des associations fondatrices de la Fondation pour la recherche du cerveau. C'est ce que je voulais rajouter. Ça, c'est une petite publicité pour demander. Nous recherchons des bénévoles. Et un dernier point, c'est nous mettons le plus possible à jour notre site internet pour donner toutes les informations sur le département. Voilà ce que je voulais dire. J'avais promis que je ne serais pas très long et je pense que j'ai rempli ma mission. Je vais donner la parole au professeur Gilles.
Voilà, eh bien, je ne sais pas si vous avez le vertige. Moi, je l'ai un peu parce que nous avons parcouru en 3 exposés successifs des étapes qui nous ont fait partir de la protéine. Voilà, la protéine, celle qu'il y a dans le poisson, le fromage, la viande, donc celle-là, c'est celle qui est dans le cerveau. Elle est ailleurs aussi, elles sont ailleurs. Les démences, ce sont des maladies des protéines. Et ces protéines, elles sont dans des cellules. Et ces cellules, elles peuvent servir déjà de modèle. Et puis après, on passe à l'animal, et c'est tout le travail qui est fait sous l'angle expérimental dans cette première étape. Et puis vient l'étape de l'organisme, de l'homme. Et l'homme, ben, c'est ce qu'a exposé le professeur Marc Pacalin. D'abord la recherche, et puis les soins. Et puis il y a l'étape de l'homme comme être social. La société, la maladie d'Alzheimer, il faut vivre avec. Alors évidemment, il faut réaliser la longueur de ce parcours. Entre les premiers frémissements d'une recherche et l'aboutissement d'un traitement, il peut se passer 10 ans, parfois 15. Il y a donc des espérances qui surgissent et puis un jour, ces espérances peuvent s'effondrer. Et on a eu là quelques exemples. Et pourtant, cette maladie, elle pose au monde un défi sans précédent. Ce défi sans précédent tient à son poids épidémiologique. C'est la maladie qui fait mourir en 8 à 10 ans la plus fréquente. 800 000 en France, pour être vague dans les chiffres, 2,5 millions aux États-Unis. On pourrait comme ça multiplier des chiffres, mais pour dire que on comprend qu'elle soit un objectif prioritaire de santé publique, puisque cette maladie a surgi en contrepoint d'un vieux rêve de l'humanité, la vie longue. Et cette vie longue qui a été apportée progressivement à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et des progrès thérapeutiques considérables qui ont surgi et qui ont été beaucoup plus importants que ce qui s'était passé pendant les 4000 ans précédents, eh bien cette maladie a montré que la rançon du vieillissement pouvait être la survenue d'une maladie d'Alzheimer. On a cru aussi que le vieillissement était une maladie. C'est une erreur à ne pas faire. Ce n'est pas le vieillissement qui est une maladie, mais le vieillissement est un facteur de risque de la maladie. Et c'est le seul facteur sur lequel on ne puisse pas agir. Voilà pourquoi les chercheurs accordent une attention particulière à tous les autres facteurs de protection de la maladie d'Alzheimer. D'autres rencontres permettront sans doute d'en parler. Mais que de mystère quand on veut passer de la cellule et de l'animal à l'homme. Nous avons compris qu'il y avait des trous, qu'il y avait des béances, qu'il y avait des chaînons qui manquaient. Donnons quelques exemples. Les plaques amyloïdes. Oui, mais la dégénérescence neurofibrillaire. Et puis la mort du neurone. Les neurones meurent, pourquoi? Qui est la poule, qui est l'œuf? Parce qu'il y a 2 lésions à côté l'une de l'autre. Est-ce qu'elles sont sans lien? Est-ce qu'elles viennent ensemble? Ou est-ce que l'une est la cause de l'autre? Et dans ce cas, dans quel sens ça marche? Qu'est-ce qui tue le neurone? Alors, qu'est-ce qui tue le neurone? C'est assez étonnant, parce qu'on aime bien les raisonnements mécaniques, les raisonnements rassurants. Pensez-vous, on a un vaccin. On va purger le cerveau des plaques amyloïdes grâce au vaccin. Alors le cerveau est purgé, effectivement. Et les souris semblent frétiller un peu plus quant à leur mémoire. Peut-être, Guylaine, qu'elles vont un peu plus vite dans le labyrinthe, quoi. Mais voilà, quand on passe à l'homme, on a beau vider la substance amyloïde, on a provoqué quelques encéphalites, Il a fallu arrêter les essais, les reprendre, et puis ça ne fait rien. Alors, est-ce que les plaques amyloïdes sont responsables de la maladie ou pas? Est-ce que ce sont des témoins ou est-ce que ce sont des causes? La souris orientée vers une cause possible. L'homme reste un mystère. Et puis, la plaque amyloïde, elle n'a pas encore fini de nous interroger. Vous pourrez, tout à l'heure, mais il sera peut-être tard, mais dans la semaine, taper sur Google ou sur Yahoo ou sur un autre moteur de recherche. Le mien, c'est DuckDuckGo, je vous le signale. Vous tapez « études des nonnes », des religieuses. Et puis, vous mettez « Snowdon », S-N-O-W-D-O-N. Eh bien, notre collègue Snowdon a publié des résultats passionnants puisqu'il a passé un contrat avec la congrégation des Sœurs de Notre-Dame aux États-Unis, qui sont des sœurs enseignantes. Dans cette congrégation, 95% des femmes, il n'y a que des femmes, par définition, sont enseignantes. Et les autres ont... Et ces religieuses ont accepté, un, de se faire examiner régulièrement par les psychologues du professeur Snowdon. Elles ont accepté aussi de confier la biographie qu'elles font quand elles ont 20 ans au moment de prononcer leur vœu perpétuel. Et puis elles ont accepté à leur mort de donner leur cerveau au professeur Snowdon. Car, ont-elles dit, avec beaucoup d'humour, ça ne nous empêchera pas de ressusciter. Les résultats obtenus, et que je ne vais pas décrire par le menu, ils sont passionnants, je voudrais simplement insister sur un ou deux d'entre eux. Par exemple, deux à trois sœurs mortes centenaires étaient en excellent état psychique. Elles n'avaient aucune maladie d'Alzheimer. Et à l'autopsie, elles avaient beaucoup de lésions d'Alzheimer. À l'opposé, une ou deux autres religieuses avaient des signes importants de maladie d'Alzheimer. Et à l'autopsie, elles avaient bien sûr des signes de la maladie, mais modérés. Et au fond, il y a eu deux manières de réagir à ça. Ou bien la maladie d'Alzheimer n'existe pas, le mythe Alzheimer, alors tapez ça sur Internet, vous allez le trouver, il y a aujourd'hui des gens qui disent que c'est un mythe. Et puis d'autres qui ont essayé de comprendre. C'est difficile de comprendre l'inégalité, voyez-vous. C'est plus facile de dire liberté, égalité, fraternité pour jamais la faire, bien sûr. Mais dans la biologie et dans la vie quotidienne, on voit que là, c'est du rock. C'est pas de l'incantation, n'est-ce pas? C'est, voilà, purger l'inégalité, l'accepter. Eh bien oui, il a fallu, par exemple, réaliser que nous étions inégaux, peut-être parce que nous avions des réserves cérébrales différentes. Et c'est tout ce concept, et c'est le seul élément préventif sur lequel j'insisterai, qui a permis de montrer au fond que le drame du cerveau, c'est le repos. C'est la mort. Le repos, c'est la mort. Alors, attention à la retraite. Parce que la retraite passée au bord de l'eau, à taquiner des poissons injectés dans la rivière 3 jours avant, d'ailleurs dévorés par les silures, et qu'on contemple de manière béate, non, bien ça, évidemment, c'est la mort. Le cerveau ne tolère pas l'inactivité. Et au fond, le grand enseignement, c'est vivez, intéressez-vous. Peu importe la retraite sociale et les défilés, ce qu'il faut, c'est vivre, c'est exister à l'autre. C'est regarder la télévision, si l'on veut, à condition que ça ne soit pas le plus beau somnifère du monde. Enfin, parce que d'habitude, on ne dort pas, sauf s'il y a un film d'action considérable ou malgré les bruits épouvantables, eh bien, on arrive à dormir. Voilà, attention. Voilà. La réserve cognitive est aujourd'hui un mystère. Mais c'est un mystère qui fait du chemin et qui montre qu'on ne peut pas, avec cette maladie, simplifier les choses. On ne peut pas avoir de la maladie d'Alzheimer une conception orthopédique. Orthopédique, ça veut dire cassé, pas cassé. Pourquoi? Eh bien, on ne peut pas avoir de la maladie d'Alzheimer une conception orthopédique parce qu'elle intéresse le cerveau. et que le cerveau, c'est l'organe qui témoigne de l'hominisation tout au bout de la chaîne du vivant. C'est le cerveau qui dit biologiquement l'homme, l'humain. Et évidemment, ce cerveau est d'une complexité infinie. Il est complexe d'abord par le nombre de neurones. On montre des images, mais derrière, il y a beaucoup de neurones. Je n'ai jamais voulu retenir le chiffre, parce que je ne peux pas me l'imaginer. Mais par contre, on peut dire qu'il y a autant de neurones qu'il y a d'arbres dans les forêts du Canada. Ça, ça parle davantage. Et puis, les neurones tout seuls, c'est rien. Ce qui compte, c'est les connexions qu'ils établissent. Et même en vieillissant, même quand les neurones meurent, la capacité de créer des connexions persiste. Le cerveau est un organe de communication. Et il y a autant de connexions qu'il y a de branches et de branchettes dans les arbres des forêts du Canada. Donc effectivement, comment se comporter à l'égard d'un cerveau d'une manière soustractive, simple? On manque, on perd. Eh bien non, on peut perdre 100 millions de neurones et ne pas avoir les mêmes symptômes. Car il y a aussi un autre mystère. Et ce mystère, c'est celui de la plasticité du cerveau. Il y a des personnes qui, quand une lésion du cerveau est atteinte, peuvent transférer les fonctions sur une autre région du cerveau. En mourant, nous n'aurons pas utilisé 10% de nos capacités. Mais voilà, il y a des cerveaux rigides qui ne savent pas faire ces transferts. Il y en a d'autres qui savent les faire. On appelle cela la neuroplasticité. Voilà de manière satellite toutes les autres recherches qui, à côté de la maladie elle-même, auront des messages à nous transmettre sur ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Et puis la maladie d'Alzheimer, elle fait réfléchir aussi au curieux destin de l'homme. Certains chercheurs ont dit que la maladie d'Alzheimer, c'est l'inverse du cancer. Et oui, parce que les cellules meurent, et je sais que Guylaine a beaucoup travaillé sur ce sujet, elles meurent parce que nous avons en nous des substances qui les aident à mourir, et puis des substances qui les empêchent de mourir. Eh bien, dans la maladie d'Alzheimer, il y a un excès de substances qui conduisent à la mort. Oui, mais dans le cancer, il y a un déficit de ces substances. Il y a un excès de substances qui conduisent à la vie. Trop de vie tue la vie. C'est ce que montre le cancer. La mort est nécessaire à l'équilibre de la vie. Et au fond, le cancer, c'est l'inondation de la vie. L'Alzheimer, c'est l'inondation de la mort. La vie doit être au milieu. Et puis, enfin, parce que il faut bien s'arrêter, c'est tout. La maladie d'Alzheimer, est-ce une maladie de l'esprit? Certains de mes collègues disent la maladie d'Alzheimer est une maladie de l'esprit. Le professeur Pacalin a dit à juste titre tout à l'heure combien le terme de démence, même si nous sommes encore contraint de l'utiliser techniquement, ne devrait plus être utilisé dans le langage quotidien. Et évidemment, c'est un exemple que je cite souvent, parce qu'il faut bien être un peu chauvin par moment. Si vous allez sur le site de l'Agence régionale de santé, Poitou-Charentes, où on parle beaucoup d'Alzheimer, vous ne trouverez pas le mot démence. Le mot démence a disparu. Ah, il n'a pas disparu tout seul, bien sûr, mais il a disparu en raison de cette philosophie qui nous interroge sur le fait de dire de quelqu'un qu'il a une maladie de l'esprit. Où est l'esprit? Est-ce qu'on peut regarder l'esprit au microscope? Non, la maladie d'Alzheimer est une maladie du cerveau. Elle est une maladie du cerveau, mais du coup, elle nous interroge terriblement sur notre fragilité. En effet, c'est grâce au cerveau que nous pensons, c'est grâce au cerveau que nous sentons, c'est grâce au cerveau que nous nous souvenons, c'est grâce au cerveau que nous reconnaissons le monde autour de nous. Mais ce malade Alzheimer, lui qui ne se souvient pas, lui qui a du mal à reconnaître le monde, lui qui a du mal à agir dans le monde, qu'en est-il de son esprit ? Au fond, la maladie d'Alzheimer, elle nous interroge aujourd'hui sur ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie humaine. C'est être homme, penser, parler, se souvenir. Alors ce malade qui ne peut plus se dire au monde ou difficilement, alors qu'est-ce qu'il est intérieurement ? En envisageant la maladie d'Alzheimer, on a trop souvent tendance, mais il le faut, pour apprendre la maladie, à évoquer des soustractions. C'est les 4 A dont a parlé Guylaine Page. A, ça veut dire qu'on n'a plus, que c'est parti. Mais qu'est-ce qui reste ? Je crois que aujourd'hui, ce qui est important dans le vivre avec la maladie d'Alzheimer, dont a parlé M. Henry, c'est précisément de dépister ce qui reste du malade. Il a perdu la mémoire, mais pas toutes les mémoires. Alors intéressons-nous aux mémoires qui restent. Il ne sait pas parler, oui, mais est-ce qu'il peut communiquer ? Est-ce qu'on communique avec la parole ? Oui, mais est-ce qu'on ne communique pas avec le visage, le sourire, les gestes ? Qu'est-ce qu'il en est ? Quand on regarde autrui, on décode aussi ses émotions, son ressenti. Qu'est-ce qui reste dans la perception des émotions portées par le visage d'autrui et qui joue un rôle si important dans la gestion de la vie quotidienne ? Et puis l'Alzheimer nous met face à un défi. Ce malade, il faut quêter ce qui subsiste en lui et surtout, il faut veiller à construire avec lui une société solidaire. Si on dit qu'il y a 800 000 personnes en France atteintes, est-ce pour les parquer et ne plus les voir ? Voilà le défi qui est posé à notre société moderne. Très prompte, bien sûr, à prendre des dispositions vis-à-vis des personnes handicapées. J'évoque souvent ces places de parking vides, mais où sont-ils les handicapés ? Ces trottoirs où on voit si peu de fauteuils roulants, mais on devrait en voir plus. Mais non, nous protégeons, mais nous excluons. Nous sommes quand même dans une société d'exclusion, et c'est ce travail inverse qu'il faut faire. L'homme, l'humanité ne s'en sortira pas sans une vraie solidarité. Et la vraie solidarité, nous pouvons la rêver, par exemple, à partir de ce que doit être l'EHPAD de demain. Il n'est pas question, bien sûr, de ne pas dire combien le travail fait en maison de retraite est important, mais si nous nous contentions de ce qui est fait aujourd'hui, nous serions coupables de manque d'imagination, de manque de créativité vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de ceux qui vont venir après nous. Allons-nous être contents parce que la Silver Economy marche, que de grandes sociétés achètent plein d'EHPAD ? Non, ça ne nous suffit pas. Il y a un travail qui est fait, mais nous voulons plus. Par exemple, est-ce qu'il y a un chien, un chat, comme dans une maison ? Est-ce que les gens sont habillés en rose bonbon ou en bleu sucre d'orge ? C'est pas ce qu'on trouve dans la maison. Une EHPAD doit ressembler à la vie. La salle à manger, elle ressemble à une salle à manger ou c'est tout nickel et blanc. La porte est fermée. Tiens, une porte, c'est fait pour être fermée ou aussi pour être ouverte. Un principe de précaution, bien sûr. Il est même dans la Constitution française. Pauvre Constitution par moment, quand elle conduit à enfermer des gens pour ne pas risquer de passer devant le juge qui brandira la Constitution. Non, notre société a besoin de se remettre en question. Une EHPAD où il n'y a pas d'enfants, est-ce que c'est possible ? Une EHPAD qui n'ouvre pas sur la ville où on entre et on sort, ça n'est pas possible. L'Alzheimer demande du rêve. Elle demande de la créativité. Elle demande de la résilience. Parce que peut-être que nous apercevrons que davantage de chemin peut être parcouru avec le malade, malgré les insuffisances thérapeutiques, si on est conscient de vivre dans une humanité solidaire. Marc Pacanin l'a dit à juste titre. Ce qu'on appelle les thérapeutiques non médicamenteuses, une étude vient de démontrer que ça ne fait rien sur la maladie. Mais j'allais dire heureusement, on s'en fiche. On veut quoi, améliorer les petits tests que l'on fait? Non, il faut aider à vivre les malades. Et je pense que c'est ça qu'on nous demandera au bout du compte. Je pense qu'à la fin de notre vie, les seuls comptes que nous aurons à rendre, ce sont ceux-là. Qui on aura aidé à vivre? La maladie d'Alzheimer nous lance ce défi. Être humain, c'est aider autrui à vivre.
Le micro est à votre disposition, me taise à vous passer. Et comme on enregistre, si vous voulez bien prendre la parole en prenant le micro, là, je vous laisse le temps. Merci.
Il faut quelqu'un qui suive vous. Allez, je me jette à l'eau pour la première question. J'avais une première question très, très générale. Compte tenu de l'explosion du nombre de malades, est-ce qu'on peut dire que le seul fait qu'il y ait aujourd'hui plus de personnes qui vivent plus âgées est le seul facteur explicatif, ou est-ce qu'il y a d'autres causes? Est-ce que c'est un simple rapport quasi mathématique? On est plus nombreux à vieillir plus longtemps, et évidemment, et voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres causes? Ça, c'est ma première question. Et puis après, j'aurais bien aimé qu'on parle peut-être aussi de qu'est-ce qu'on dit aux personnes chez qui on a diagnostiqué la maladie. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on met des mots sur la maladie? Et du coup, si on ne le fait pas, est-ce qu'on se prive, ou est-ce qu'on prive plutôt la personne de l'accès à des, ce que vous avez décrit, M. Henry, hein, des réseaux d'aide? Comment on fait ce passage entre un diagnostic qui est connu de la famille, qui n'est pas connu de la personne, et puis l'orientation vers les différentes aides qu'on peut mettre en place?
Je vous répondrai à la première question. La seconde, je pense que beaucoup parmi nous auront un mot à dire. Donc, l'histoire démographique, ça parle un petit peu du fameux baby boom qui a eu après la Seconde Guerre mondiale, qui fait que donc il y a beaucoup de Français qui seront, ou de personnes dans le monde qui seront octogénaires en 2020. Et quand on a dit cela, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de facteur véritablement pour donner la maladie, pour expliquer la maladie. Mais moi, dans les espoirs que j'ai aussi sur l'avenir, c'est sans du tout porter préjudice ou critique à nos concitoyens qui ont 80 ans ou plus aujourd'hui. C'est la fameuse réserve cérébrale, la plastie cérébrale dont parlait le professeur Gilles. Par exemple, nos sociétés modernes, on a eu des cerveaux beaucoup plus nourris que nos grands-parents qui souvent ont eu le certificat d'études et puis ont été travailler très rapidement dans la vie. Apparemment, nos sociétés modernes, on a beaucoup plus nourri notre cerveau, et peut-être que ce serait un moyen de reculer un petit peu la maladie grâce à cette réserve cérébrale. Pour la seconde question, moi, ma part de réponse, parce que j'ai le micro, mais le patient, centré sur le patient, oui, mais j'aimerais qu'on se centre sur l'aidant. Et j'ai parfois l'impression que dans le fait de ne pas parler du diagnostic ou de la maladie avec le patient, c'est probablement parce que le conjoint ou l'aidant principal a lui-même de grandes difficultés par rapport à cette maladie. Et je crois que des fois, c'est un vrai travail sur soi à faire, mais qui permet peut-être de mieux accepter cette maladie et du coup peut-être de plus s'ouvrir vers toutes les possibilités aujourd'hui qui ont été énumérées par Monsieur Henri. Moi, c'est un peu la souffrance de l'aidant sur laquelle, en consultation, je suis un peu provocateur, parce que le patient, bien sûr qu'à un stade précoce, aucun d'entre nous, on souhaite entendre cette maladie, à un stade un peu plus évolué, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il oublie ce qu'on vient de dire, et puis voilà, il est très dépendant, en plus du regard de son aidant, il mime son aidant, il est très dépendant de la réaction de son aidant. Donc moi, j'avoue que j'en fais plutôt une thérapie de l'aidant, d'oser parler des choses.
Oui, je crois que il y a plusieurs philosophies possibles. Bon. Vous n'ignorez pas que la France a inventé le mot « annonce ». C'est une invention française. Puisque « announcement », si on tape sur Google « annonce Alzheimer », on va trouver « constellation d'annonce ». Et si on tape « announcement Alzheimer », on va trouver des annonces de congrès, par exemple. Le mot est terrible. Voilà. Quelques technocrates l'ont imposé. Une annonce est publique, c'est une sentence. Voilà. Alors qu'il est question de dialogue, il est question d'information. Il y a même eu des préconisations pour faire des consultations d'annonces. Ça m'a toujours terrifié. Vous voyez, venez dans 15 jours, là, on va tout vous dire. Bon, là, pendant 15 jours, le malade mijote. Mais non, il faut une consultation. Non, c'est le malade qui détient la clé. Le malade doit obtenir les réponses aux questions qu'il pose, mais en respectant son droit au déni. Et quand un malade ne veut pas voir, on n'a pas le droit de lui mettre le nez dans le bouillon. On ne doit jamais mentir et on doit aller jusqu'où il veut qu'on aille. Sachant que très souvent, le malade sait, sans avoir besoin de dire le mot. Je me souviens d'une réunion de famille qui m'avait beaucoup frappé, où il y avait des malades et leur famille. Et il y avait un malade Alzheimer à côté de son épouse et qui racontait des souvenirs extrêmement prolixes, très anciens. Et sans doute que certains d'entre eux étaient peut-être un peu inexacts, je ne sais pas. Sa femme se penche vers lui et lui dit « Est-ce que tu vas arrêter de dire des bêtises ?» Parce que tu sais quand même que tu dis des bêtises. Et il répond à sa femme « Mais quand même, comment tu oses me dire ça? Tu sais bien que j'ai une maladie d'Alzheimer. » Je crois que le mot demande aussi à être apprivoisé. Il est parfois oublié, parfois mis de côté. Et je crois qu'au fond, c'est ce travail d'adaptation qu'il faut faire en permanence. Bien sûr, on est surpris que, avec un certain nombre d'explications, la mémoire, etc., est-ce que ça va s'aggraver? Ben écoutez, on va surveiller, mais ça peut un peu s'aggraver, il faut voir, etc. Le passage vers une association se fait facilement. Alzheimer est apparenté, et peu à peu, si vous voulez, il y a ce processus d'apprivoisement. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est quelque chose de très personnalisé qu'il faut mettre en œuvre, sans mensonge, mais sans aller au-delà de ce que le malade désire. C'est un peu comme ça que je vois les choses.
Si je ne vais rien rajouter à ce qu'a dit le professeur Gilles, hein, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais ce que je voudrais dire, c'est si moi, on me donnait un diagnostic de maladie d'Alzheimer, j'ai l'impression qu'on dirait point final, débrouille-toi. Alors que ce que je voudrais, c'est que lorsque le professeur Pacalin me dira que j'ai la maladie d'Alzheimer, qu'il me dira avec un grand sourire à la place, vous savez, je suis toujours là.
Monsieur Gilles a parlé tout à l'heure de solidarité. Est-ce qu'au niveau international, il y a un échange entre les centres de recherche ou est-ce que les brevets bloquent la communication ?
Il y a une époque où c'était un peu la concurrence entre les pays. Et le même projet pourrait être décliné à droite et à gauche et mobilisant les mêmes fonds. Et honnêtement, maintenant, il y a un vrai effort d'échange avec des réunions internationales, au niveau européen, c'est sûr, mais même avec les États-Unis, pour s'accorder sur les axes de recherche et pas faire. Même si la recherche nécessite de toujours confirmer ou infirmer ce qu'a trouvé X ou Y, arrêtons de faire une course chacun de son côté. Il y a une volonté affichée, en tous les cas, de plus grande solidarité dans la recherche et de beaucoup plus d'échanges internationaux.
Les essais thérapeutiques sont maintenant internationaux. Par exemple, le vaccin dont parlait M. Pacanin tout à l'heure, c'est un essai mondial, quoi. Enfin, bon, monde occidental, mais voilà, de part et d'autre de l'Atlantique. Ce qui veut dire un effort pour parler un même langage, qu'on soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou dans la vieille Europe, trouver des symptômes qui se ressemblent, ça nécessite beaucoup d'accords. Mais ça, c'est quelque chose qui monte beaucoup en charge.
Merci. Moi, j'aimerais soulever deux points. J'aimerais savoir s'il y a eu des études qui ont été faites sur les relations possibles entre la maladie d'Alzheimer et les pesticides et tous ces produits chimiques qui, je pense, sont quand même des tueurs silencieux, à plus ou moins long terme. Et la maladie d'Alzheimer touche tout le monde, certes, mais là encore, y a-t-il eu des études de fait qui démontreraient éventuellement un lien entre cette maladie et certaines catégories socio-professionnelles qui seraient plus touchées que d'autres? Et le deuxième point, sauf erreur de ma part, j'ai cru remarquer tout à l'heure sur les coupes cérébrales, la mention de la maladie ou la démence, je ne sais plus, accord de Lévy, je ne sais pas comment ça se prononce. Quelle est la différence avec la maladie d'Alzheimer, ou est-ce un autre nom de la maladie d'Alzheimer? Est-ce qu'on peut avoir des éclairages là-dessus, s'il vous plaît?
Je veux bien répondre par rapport aux études sur les pesticides ou les catégories professionnelles qui seraient plus exposées et plus sujettes à développer cette maladie. Donc, moi, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'études qui ont montré la toxicité des pesticides et le risque de développer la maladie d'Alzheimer. La seule chose qu'on a à notre connaissance, c'est l'intoxication à l'aluminium. L'aluminium pourrait favoriser en fait le développement de la maladie d'Alzheimer, parce qu'en fait, quand on a parlé de la plaque amyloïde, on a dit que c'était cette protéine en fait qui est anormale et qui se dépose. Mais en fait, une plaque, c'est très hétérogène. Il y a énormément d'éléments qui travaillent en concert pour consolider cette plaque et la rendre mature et toxique. Et par exemple, il y a des ions comme l'aluminium qui favoriseraient donc le maintien de cette protéine sous cette forme insoluble. Mais pas comme dans la maladie Parkinson, où effectivement, là, il y a un lien avec certains pesticides. Mais pas dans la maladie d'Alzheimer. Je n'ai pas de connaissances concrètes sur ça.
Donc les pesticides, comme Hélène, je dirais, mais c'est quelque chose où il va falloir être vigilant à l'avenir. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément la maladie d'Alzheimer qui aujourd'hui a les pesticides comme facteur de risque qui sortirait de manière claire et nette. Ce dont on est sûr, en tous les cas, et M. Gilles l'a abordé un moment, c'est qu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaires, que eux, l'hypertension artérielle, qu'on peut diagnostiquer et qu'on peut traiter et équilibrer. Et donc tous ces facteurs de risque cardiovasculaire précipitent probablement les symptômes de la maladie. Après, votre second point sur la maladie accord de Lévy, c'est une autre pathologie neurodégénérative aussi lourde de conséquences, mais c'est une maladie différente. Alors bon, pour faire schématique, peut-être qu'on la rapprocherait plus de la maladie de Parkinson, mais il y a encore beaucoup de... Monsieur Gilles, en tant que neurologue, sera plus à même que moi à y répondre. C'est une autre maladie neurodégénérative, mais ce n'est pas synonyme de la maladie d'Alzheimer. Il y a des symptômes qui permet de différencier les deux, à la fois sur le plan clinique et sur, le plan des examens complémentaires.
Alors, en ce qui concerne les milieux socioculturels, alors c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur un plan épidémiologique. La maladie d'Alzheimer est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Non pas parce qu'il y a plus de femmes, mais elle est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Et d'autre part, des études menées dans des cultures différentes, je veux dire en Asie et dans le monde occidental, ont montré que les sujets qui avaient un faible niveau socioculturel avaient plus de chances de développer une maladie d'Alzheimer. Alors, ceci a fait couler vraiment beaucoup d'encre. Pour les femmes, ça n'a même pas été très élégant, parce qu'on dit, bon, ou bien c'est que leur complexion hormonale les prédispose, ou bien c'est qu'elles ont un plus bas niveau culturel que les hommes. Mais vous n'accepteriez pas, sans doute. Il est possible que les vieilles études reflètent cela, mais ce n'est plus en accord avec la femme moderne. Quant au niveau socioculturel et au niveau culturel bas, il a plutôt été un aiguillon. Et c'est cet aiguillon qui a fait dire que on travaille très tôt sa réserve cérébrale. L'éducation nationale dans un pays, c'est une priorité. Et ce n'est pas pour rien. On a une raison majeure là de le dire, parce que quand j'ai parlé de l'étude des nonnes tout à l'heure, les religieuses qui avaient fait une biographie la plus fournie en détail, la plus dense en pensée, étaient davantage protégées de la maladie d'Alzheimer que celles qui avaient fait des biographies sommaires. Autrement dit, ceci a abouti à une posture de combat. Ce combat, c'est construire sans cesse sa réserve cérébrale. On commence chez l'enfant, chez le jeune adulte, mais après, on n'abandonne pas. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de longues années d'études qu'on est disqualifié. Non, ben non, on s'intéresse au monde. Les études faites par notre ami le professeur Dartigues viennent de montrer, par exemple, que les gens qui font du jardinage par rapport à ceux qui n'en font pas sont protégés. Parce que celui qui fait du jardinage à un certain niveau, ben il faut qu'il fasse des plans, qu'il planifie, qu'il ait les rythmes des saisons, ce qu'il fait, la manière dont on taille, etc. etc. Voilà. Et il y a donc toute une planification mentale. Donc je crois que, voilà, il ne faut surtout pas tirer de ces constatations initiales qui avaient été choquantes il y a 20 ans, quand elles sont sorties, des postures passives. Non. Ça doit entraîner des postures de combat vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer, et qui est construire et accroître sa réserve cognitive, qu'on appelle aussi sa réserve cérébrale. Voilà, ça c'est un élément important. Voilà pourquoi la persistance du lien social est extrêmement importante. Et je réévoque un autre facteur de prévention, la lutte contre les déficits sensoriels du vieillissement. L'hypoacousie, la baisse de la vue sont des nécessités épidémiologiques et même éthiques, morales. Hein, et les appareils d'audition doivent être accessibles parce qu'ils permettent aux gens de continuer à être insérés dans le monde et à s'imprégner du monde. De même, la vision, les interventions nécessaires de cataracte, la correction des anomalies sensorielles. Vous voyez, c'est cette posture de combat qu'il faut avoir au-delà des constats qui, au début, ont choqué, mais doivent être un élément stimulant. Parce qu'il y a une explication au niveau du cerveau, et qu'un pays est capable de la prendre en compte au niveau social général, et après au niveau de chaque destin personnel. Qu'est-ce que je fais de ma réserve cérébrale? Voilà, c'est ça qui est important.
Moi, je suis pharmacien et souvent, donc au comptoir, on a je remarque des aidants, enfin de temps en temps, des aidants qui ça se voit en effet, comme vous disiez, qui souffrent, qui viennent désemparés, qui viennent régulièrement chercher les médicaments et tout ce qui est matériel. Et Mais et puis alors, il m'arrive enfin de constater ça, de dire mais est-ce que vous faites aider, est-ce que vous faites quelque chose là, vous n'allez pas, vous êtes pas très en forme et tout. Et puis je le redis la fois d'après et sur certains, très souvent la réponse, enfin de temps en temps la réponse c'est ça va, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Puis la fois d'après, on voit que il est stressé, il va pas bien. Et donc, je voulais vous demander, donc quel conseil vous me donneriez ? Est-ce qu'il faut en faire plus ?
C'est déjà très bien ce que vous faites. Vous êtes aussi un acteur essentiel de cette échelle humaine, de cette chaîne humaine. Et comme le médecin traitant, parce que vous, comme le médecin traitant, probablement une fois par mois, une fois tous les trois mois, que vous avez croisé les patients et les aidants. Bon, je suppose que vous avez déjà des affiches dans votre officine. Bon, continuez à aller parce que c'est du travail de sape. Et un jour, ce travail de sape portera son fruit. Il y a des couples fusionnels où, non, je gère tout seul jusqu'au bout et qu'ils font très très bien, mais un jour, il y a un épuisement tout à fait normal. Et il faut juste leur dire, vous gérez très bien, il n'y a pas de souci. Mais si vous arrive un pépin, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Du coup, votre conjoint se retrouve en grande difficulté. Donc oui, bien sûr qu'on fait confiance et vous gérez très bien le quotidien, mais pensez au moment, si par hasard vous faites une grippe, vous chutez ou fracturez l'école du fémur, peu importe, votre conjoint qui est malade, là, il se retrouve tout seul, et sans vous, sans son infirmière ou sans son infirmier préféré, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est peut-être un moyen, peut-être, de les aider à s'approcher des solutions humaines qu'il y a aujourd'hui avec l'association France Alzheimer, ce qu'a présenté M. Henry, ou même au niveau du voisinage, du quartier. Il y a des gens qui sont trop seuls, ça c'est clair. Donc continuez à faire ce que vous faites.
Oui, je veux dire qu'une partie, un chapitre du plan Alzheimer s'intéresse spécifiquement au problème des aidants. Alors c'est vrai que les aidants vivent moins longtemps que la population générale, ont plus d'affections cardiovasculaires et qu'en bref, ils négligent leur santé. Et donc, on permet maintenant de remonter ce qu'a dit M. Henry tout à l'heure, la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie d'une famille. Et donc, effectivement, quand on a suivi des malades, on avait les dents à côté, puis on ne parlait pas d'eux, quoi. Or, aujourd'hui, il faut remettre les dents dans la prise en charge. Et entre autres, aussi l'encourager à est-ce qu'il a vu son médecin, est-ce qu'il traite son hypertension, est-ce qu'il fait un dépistage qui devait être fait de je ne sais pas quoi. Voilà, c'est ça aussi. Il y a aujourd'hui, parce que l'aidant a tendance à héroïser son comportement et arrive ce que disait M. Pacalin, eh bien, il arrive un moment où la catastrophe survient et c'est le passage subi aux urgences, en maison de retraite, soudaine, ce qu'on n'a pas préparé, avec une place qu'il faut trouver sous 15 jours, sans avoir le temps de bien choisir. Et c'est ça qu'il faut apprendre à l'aidant à prévoir. Donc, par le dialogue et aussi par le fait qu'il ait un suivi médical. Il faut qu'il fasse partie de la prise en charge. Et le médecin traitant a là un rôle très important à jouer. L'association aussi, M. Henry, puisque bon, vous avez une formation des aidants.
Oui, je dirais qu'on est tous solidaires. C'est-à-dire que il faut répéter et répéter encore à tous ces aidants qu'ils ont besoin d'être aidés, qu'il ne faut pas qu'ils restent seuls et que l'association est là pour les aider. L'association, ce sont des personnes qui accompagnent ou qui ont accompagné un malade d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Donc ce sont des personnes qui connaissent les difficultés et qui peuvent échanger avec les aidants. Mais il faut redire encore aux aidants, et chacun à sa part, vous, si vous êtes pharmacien, nous avons des affiches. Vous mettez une affiche dans votre, sur votre vitrine, ce sera dit. Vous laissez un petit papillon sur les cafés mémoire, etc., sur votre comptoir, ça va peut-être disparaître, mais ça veut dire que ça va porter du fruit. Et puis, ce qu'il faut, c'est... On a tous des schémas, on a un peu comme une obligation de s'occuper de l'autre. Et en plus, on ne se rend pas compte. On a fait une enquête pour savoir, pour les aidants. Et beaucoup de gens nous ont dit, mais moi je ne suis pas aidant, je suis le fils de ma mère ou le fils de mon père ou je suis la fille de mes parents et je ne suis pas aidante. Vous voyez ? Donc, c'est, en définitive, c'est, on se donne à l'autre et on ne s'aperçoit pas. Mais on a besoin de l'autre, on a besoin de rencontres.
En tant que pharmacien, je partage aussi votre question, puisque c'est vrai que moi aussi, quand j'ai fait ma formation de pharmacie à Poitiers, on n'était pas du tout formé à l'éducation thérapeutique. Maintenant, c'est un programme qui est donc présent dans le cursus de nos futurs pharmaciens. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment de développement assez poussé sur ce point-là, en particulier sur les maladies neurodégénératives. J'ai la chance aussi dans l'équipe de recherche d'avoir deux enseignants PAST, enseignants-chercheurs associés, qui sont tous les deux pharmaciens à l'officine et qui prennent en charge nos futurs étudiants qui ont choisi la filière officine. Et c'est vrai que ce domaine-là, je vais l'aborder avec eux parce que nos étudiants seront comme nous. Si on ne les forme pas, eh bien, ils sont dépourvus de moyens pour répondre à ces patients qu'il faut prendre en charge. Et le pharmacien doit vraiment éduquer les patients et les prendre complètement en charge. Donc c'est quelque chose que je vais voir avec ces deux enseignants-chercheurs pour insister sur cette prise en charge.
J'aimerais poser une question. Je voudrais savoir, j'ai entendu parler dans le 86 de la MAIA. Dans le département 17, il y a également un réseau qui s'appelle le réseau Ivoire. Ce sont deux structures dont on m'a dit qu'elles pouvaient aider les familles, etc. Je voulais savoir, par rapport à une association comme France Alzheimer, quel est leur rôle, quelle est leur position,
Tout ça sont des acteurs de terrain. La MAIA, c'est pour repérer à l'échelon, on va dire, la moitié du département, parce qu'il y aura plusieurs. Alors, dans MAIA, il y a le terme Alzheimer, mais en fait, c'est surtout vers la perte d'autonomie, puisque ça ne sera pas seulement pour les patients avec des maladies neurodégénératives, ça sera destiné à tous ceux qui ont des maladies avec perte d'autonomie au quotidien. Et la MAIA va en fait. C'est vrai qu'en France, on met toujours des strates, une strate de plus. Le but, ce n'est pas de refaire ce qui est déjà fait, mais il faut espérer de compléter. Et la MAIA va être un acteur entre les associations, les réseaux, les médecins traitants, les médecins spécialistes, et puis tous les catégories socioprofessionnelles qui sont impliquées dans ces problèmes de maladie. Pour, en gros, si je caricature, il y aura ce qu'on appelle un manager qui va être responsable d'une vingtaine d'habitants de la moitié du département qui posent véritablement des soucis au quotidien, qui malgré tout ce qu'on peut mettre comme place au domicile, les SIAD, les ADMR, etc., toutes les brèches ne sont pas colmatées. Et le but de la MAIA, c'est de prendre ces dossiers en main et d'accompagner jusqu'à ce que la sérénité puisse être véritablement réalisée. Donc voilà, c'est une strate supplémentaire pour mettre un peu plus d'huile dans les rouages et aider au maximum à faire accepter les aides et à ce que les aides se mettent en place, puisqu'il y a encore des endroits isolés dans chaque département, et puis des endroits où tous les acteurs de terrain ne sont pas suffisamment en communication. Donc c'est un peu, voilà, si je caricature, mais M. Gilles connaît aussi le problème de la MAIA, c'est mettre de l'huile dans les rouages. Voilà.
Oui, je voulais simplement rajouter que ce qui est important, c'est le médecin traitant. C'est pour l'aidant principal, son interlocuteur, c'est d'abord le médecin traitant, le médecin de famille. Ensuite, il y a le clic et le réseau. C'est le clic, si vous voulez, il existe dans tout le département de la Vienne. Les réseaux, malheureusement, on n'en a pas dans tout le département, mais presque. Et donc, le contact, c'est, je le répète, c'est le médecin traitant d'abord, et ensuite le clic et le réseau. Et c'est le clic et le réseau qui vont déclencher la MAIA, qui vont... La MAIA, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui existe et qui nous rend bien service. Et les réseaux, non, nous, on n'a pas la chance... Si, ils n'ont pas des beaux mots comme ça, mais enfin, donc, c'est le réseau gérontologique du Grand Poitiers, ça va être le réseau, ainsi de suite, du Loudunais, etc.
Mais tout ça, ça existe et ça marche. Mais pour les déclencher, c'est le médecin traitant ou directement le clic ou le réseau.
Et puis la Maya vient de couvrir maintenant l'ensemble du département. Enfin, il y a deux Maya qui travaillent ensemble et qui sont en fait une seule structure. Voilà. Mais on ne s'adresse pas à la Maya comme ça. Hein. On passe par le médecin traitant, le clic, le réseau qui déclenche éventuellement pour gérer ce que M. Pacala a expliqué, c'est-à-dire les cas complexes.
Merci.